Chapitre suivant. Vincent visite sa famille. Fondation de la Congrégation de la Mission. Mort de Madame de Gondy. Congrégation de la Mission qui se développe. Fondation des Dames de la Charité, puis des Filles de la Charité. De Bordeaux, il se rendit dans son pays natal pour revoir toute la famille et la maison de son enfance. Il descendit chez le curé et visita les vieilles gens qu'il avait connus autrefois. Quelle joie pour tous de recevoir le petit pâtre de jadis, devenu précepteur de prince, aumônier général des galères. Partout, il fut accueilli avec affection, tant son souvenir était resté vivant et tant aussi sa bonté transparaissait à travers sa personne. Il voulut se rendre en pèlerinage avec tous les membres de sa famille à la chapelle miraculeuse de Buglose, construite récemment au milieu des bois. Il y fit le chemin pieds nus, comme lorsqu'il était petit berger. Avec quel cœur il confia à Notre-Dame de Buglose les âmes des malheureux vers lesquels il se sentait de plus en plus appelé. Avant de quitter son pays natal, où il ne devait plus revenir, il réunit tous les siens dans un dernier repas. Leur donnant l'exemple du détachement, il leur abandonna tous ses droits sur l'héritage paternel, puis recommanda d'être fidèles à Dieu et d'être bons les uns pour les autres. Pour lui, il se sentait plus libre en ne possédant rien, pour se donner tout entier aux pauvres qui l'attendaient. La pensée des pauvres gens des campagnes ne quittait pas l'esprit ni le cœur de Vincent de Paul. Monsieur et Madame de Gondy, en le rappelant à Paris, lui avaient offert l'évangélisation des 12 000 paysans qui travaillaient sur leurs terres. Tout seul, Monsieur Vincent n'aurait pas pu en venir à bout, mais plusieurs saints prêtres qu'il admirait beaucoup étaient décidés à tout quitter pour se joindre à lui. Le 17 avril 1625, Monsieur et Madame de Gondy, par contrat devant notaire, offrait à la société naissante une somme considérable pour l'époque, 45 000 livres. L'archevêque de Paris offrait de son côté à M. Vincent les vieux bâtiments d'un collège qui n'avait plus d'élèves et qui s'appelait Collège des bons enfants. En échange, la congrégation de la mission s'engageait à se dévouer gratuitement à l'apostolat des campagnes et à l'assistance spirituelle des forçats. Le 23 juin 1625, 2 mois après la fondation de la mission, Madame de Gondy mourait à l'âge de 42 ans. Cette noble femme avait, en quittant ce monde, la joie d'avoir contribué, par l'appui accordé à Monsieur Vincent, au salut de nombreuses âmes délaissées. En récompense, le Seigneur lui donnait de mourir réconforté par la présence de son saint confesseur, dans la confiance et dans la paix. Monsieur de Gondy était absent au moment de la mort de sa femme. C'est Vincent qui eut la délicate mission de lui apprendre la douloureuse nouvelle. Le général des galères, qui sous l'influence du Saint-Prêtre était devenu un fervent chrétien, accepta avec soumission la pénible épreuve. Cette mort inattendue lui fit comprendre, une fois de plus, la vanité des richesses d'ici-bas. Renonçant à sa grande fortune et à ses titres pompeux, il demanda humblement à M. Vincent d'entrer dans la congrégation nouvellement fondée des prêtres de la mission. Mais M. Vincent ne tenait pas à avoir des grands de la terre dans ce qu'il appelait sa chétive compagnie. Il conseilla à M. de Gondy de devenir disciple de M. de Bérulle et prêtre de l'oratoire, ce qu'il devint en effet. De son côté, avec ses auxiliaires, dont le principal s'appelait M. Portail, le nouveau supérieur de la mission se mit à la besogne. L'équipe de missionnaires parcourut d'abord les terres des seigneurs de Gondy, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne. Partout où ils passaient, grâce à leur bonté et à leur simplicité, ils gagnaient les cœurs et réconciliaient les âmes avec le bon Dieu. Dans toutes les provinces, on réclamait des missionnaires. Heureusement, de bons prêtres demandèrent à se joindre aux premiers compagnons. Suivant les conseils de leur fondateur, ils allaient par groupe de 2 ou de 3, de paroisse en paroisse, organisant des confréries de charité comme à Châtillon-les-Dombes, éclairant les consciences par des prédications qui, contrairement aux habitudes de l'époque, s'efforçaient de rester familières. Le bon Dieu bénissait merveilleusement leurs efforts et leur dévouement. On assistait à des réconciliations de familles divisées, à des restitutions de la part de voleurs vis-à-vis de leurs victimes. Il y avait foule auprès des confessionnaux, et beaucoup d'hommes dont l'existence ressemblait souvent à celle de leur bétail retrouvaient le goût de vivre en même temps que leur dignité de fils de Dieu. La manière de prêcher des missionnaires eut même de l'influence, en dehors de la congrégation, sur les sermons de l'époque. Au lieu de faire des prêches longs et ennuyeux, les prédicateurs s'appliquèrent à prêcher à la manière des missionnaires, c'est-à-dire avec beaucoup de simplicité, selon l'esprit de l'Évangile. La mode s'en répandit tellement que même à la cour de Saint-Germain-en-Laye, le roi Louis XIII ne voulut d'autre façon entendre prêcher le carême. La maison du collège des bons enfants n'était plus assez grande pour contenir tous les prêtres qui voulaient être de la mission. Tous les prêtres et beaucoup d'autres curés ou vicaires de paroisse venaient auprès d'eux faire une retraite de quelques jours pour se former, sur leur direction, à devenir encore plus fervents et plus apôtres. Donc la place manquait. Mais Dieu n'abandonne jamais ceux qui travaillent pour lui. Et voici ce qui arriva. Le prieur de Saint-Lazare, Adrien le Bon, eut l'idée d'offrir à M. Vincent les immenses bâtiments de son prieuré. Ils avaient été construits pour abriter des lépreux, mais depuis longtemps, il n'y en avait plus. Cette grande maison devait contenir pendant de longues années le centre de la congrégation de la mission, dont les prêtres prirent désormais le nom de lazaristes. Un des premiers établissements de la mission fut celui de la ville de Richelieu, grâce à la duchesse d'Aiguillon, nièce du cardinal. Elle succéda à Madame de Gondy comme protectrice de la congrégation naissante. Beaucoup d'autres maisons furent fondées à Sedan, Montpellier, Périgueux, Montauban, Troyes, Annecy, Marseille. Bientôt, le pays tout entier fut couvert d'un réseau d'œuvres vouées au service des pauvres. De Paris, M. Vincent faisait visiter les centres de province par des personnes de bon jugement qui savait à la fois encourager les dévouements et éviter les gaspillages. À Paris même, l'œuvre des dames de la charité comprenait les plus grandes dames du royaume. Vincent les mettait au courant des détresses de l'époque. Il les orienta d'abord vers la visite des malades dans les hôpitaux. Les hôpitaux à cette époque n'étaient pas assez nombreux. Ils étaient surpeuplés. Les règles les plus élémentaires d'hygiène n'étaient pas respectées. Parfois, plusieurs malades couchaient dans le même lit, d'autres attendaient par terre, sur la paille, la mort d'un de leurs camarades pour prendre sa place. Aussi, des scènes atroces, surtout aux périodes de famine et d'épidémie, faisaient de ces hôpitaux comme des vestibules de l'enfer. M. Vincent fit le récit de ces scènes navrantes à ces dames de la charité. Il les emmena visiter les hôpitaux pour qu'elles puissent se rendre compte par elles-mêmes. On ne fait jamais appel en vain au bon cœur des femmes de France. Des salles nouvelles furent aménagées. Chaque malade eut son lit avec des draps propres. La nourriture fut améliorée. Les soins furent donnés régulièrement. Et l'on pensa même à s'occuper des convalescents à leur sortie de l'hôpital. Plusieurs belles dames n'hésitaient pas à consacrer plusieurs heures par jour aux soins des malades et à faire pour eux ce qu'elles n'auraient jamais consenti à faire chez elles. Sur le conseil de M. Vincent, elles s'appliquaient à voir dans ceux qu'elles soignaient Jésus-Christ lui-même. En approchant ainsi la misère humaine, elles comprenaient mieux qu'elles n'avaient pas le droit de gaspiller l'argent pour leur plaisir ou pour leur vanité. Les pauvres et les malades qu'elles visitaient, avec respect et amour, étaient touchés de leur bonté. C'est ainsi que M. Vincent contribua à rapprocher des classes sociales qui s'ignoraient totalement. Grâce à sa charité qui se répandit à travers le royaume, à une époque où tant de malheureux étaient prêts à se révolter, M. Vincent fit faire à la France l'économie d'une révolution sanglante. L'amour est plus fort que la haine. Mais M. Vincent se rendait compte que malgré leur dévouement, les belles dames de la société, dont les principales s'appelaient Marie de Gonzague, future reine de Pologne, Charlotte de Montmorency, mère de Condé, Madame Fouquet, mère du surintendant, Madame de Lamoignon, femme du président du Parlement, Madame Séguier, femme du grand chancelier, ne pouvaient donner tout leur temps aux malades et aux pauvres. Elles se devaient aussi à leurs maris et à leurs enfants. C'est alors qu'il accepta d'organiser le dévouement de généreuses filles de la campagne qui lui offraient de devenir, sous sa direction, les servantes des pauvres. La première qui se présenta s'appelait Marguerite Nazo. Elle était servante de ferme à Suresnes. Tout en gardant les vaches, elle avait appris à lire pour pouvoir enseigner le catéchisme à ses compagnes illettrées. Ayant entendu dire tout le bien que faisait M. Vincent à Paris, elle vint lui offrir ses services. Comme d'autres jeunes filles se présentaient aussi, Vincent résolut de les réunir en compagnie et d'en faire des religieuses d'un nouveau genre qui pourraient circuler dans les rues et les maisons. Mais à qui en confier la direction? Or, parmi ses collaboratrices habituelles, il en était une qui lui était particulièrement dévouée. C'était Louise de Marillac, qu'il avait connue autrefois à Clichy et qui s'était mariée peu de temps après avec un magistrat Antoine le Gras. Devenue veuve en 1625, elle s'était mise sous la direction de M. Vincent. En 1630, elle avait fait entre ses mains le vœu d'employer sa vie au service des pauvres. Aussi, quand il s'agit de diriger cette nouvelle société de servantes des pauvres, c'est tout de suite à elle qu'il pensa. Et en 1633, Marguerite Nazo et ses compagnes se réunirent dans la maison de Louise de Marillac. La congrégation des filles de la charité, appelées aussi sœurs de Saint-Vincent de Paul, était fondée. Le 25 mars 1642, la nouvelle supérieure et ses compagnes s'engagèrent par un vœu. Aujourd'hui encore, c'est à la fête de l'Annonciation que toutes les filles de la charité renouvellent chaque année le geste de leur fondatrice et l'engagement qui les lie au service de Dieu et des pauvres. Marguerite Nazo devait mourir peu de temps après, victime de son dévouement auprès des malades atteints de la peste. Depuis cette époque, les filles de la charité n'ont cessé de se multiplier et de se répandre à travers le monde. On les trouve partout où il y a une misère à soulager, une œuvre de dévouement à accomplir. Infirmières dans les hôpitaux, visiteuses des pauvres, mamans des orphelines, éducatrices de la jeunesse, directrices de soupes populaires, de dispensaires et d'asiles de vieillards, missionnaires dans les pays lointains. Elles sont aujourd'hui plus de 40 000 répandues sur la face de la terre. Le développement de ces œuvres de charité ne faisait pas oublier à M. Vincent la grande aumône dont le monde a besoin. Ce n'est pas seulement le pain du corps, mais celui de l'âme, Jésus-Christ lui-même. Or, pour donner Jésus-Christ au monde, il faut de saints prêtres qui le fassent connaître et aimer par toute leur vie. Aussi, M. Vincent, comme les grands hommes de son époque, était-il préoccupé de la préparation des futurs prêtres au sacerdoce. Il n'y avait pas encore à cette époque de séminaire comme aujourd'hui. M. Vincent organisa, en sa vaste maison de Saint-Lazare, des retraites de 15 jours pour préparer les jeunes gens qui avaient étudié la théologie en Sorbonne à recevoir leur ordination. Ces retraites pour ordinants avaient lieu 5 fois par an. Bientôt, on fit de même dans tous les diocèses de France. La coutume passa de France à l'étranger et même à Rome. 15 jours, c'était tout de même peu pour se préparer à l'ordination sacerdotale qui fait d'un homme un prêtre pour l'éternité. Bientôt, des prêtres de la mission établirent à la demande des évêques de grands séminaires où les futurs prêtres restaient plusieurs années pour se former. À la fin du XVIIe siècle, il n'y avait pas un seul diocèse de France qui n'eût son séminaire. Mais il ne suffit pas d'avoir reçu pieusement l'ordination sacerdotale pour être un bon prêtre. Il faut sans cesse faire des progrès. Pour aider les prêtres à devenir plus fervents, M. Vincent organise tous les mardis à Saint-Lazare une journée de prière, d'études et d'amitié. C'est dans ces réunions que se retrouvaient des hommes qui devinrent célèbres. Ollier, fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice, Bossuet, futur évêque de Meaux, Palu, fondateur des missions étrangères. Le roi Louis XIII, qui avait rencontré plusieurs fois M. Vincent, s'intéressait à ses œuvres. Il demanda des filles de la charité comme infirmières aux armées, des prêtres de la mission comme aumôniers militaires. Il aimait le consulter pour lui-même et sous son influence, il se réconcilia avec la reine Anne d'Autriche. Le 11 février 1638, il consacra la France à la Sainte Vierge, demandant qu'en souvenir de cette consécration, il y eût partout, tous les ans au 15 août, une procession en son honneur. La Sainte Vierge protège ceux qui se confient à elle. Quelques semaines après la consécration du royaume à Notre-Dame, les armées ennemies qui avaient envahi la France étaient stoppées. Puis, alors que le roi n'avait pas d'enfant et donc pas d'héritier, un fils lui naissait. C'était le futur Louis XIV. En 1643, se sentant devenir malade, Louis XIII appela M. Vincent auprès de lui et, sous sa conduite, se prépara à la mort. C'est en chantant le Te Deum qu'il rendit son âme à Dieu.